Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Christian Estrosi, bonjour.
Bonjour.
Maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur et du mouvement La France Audacieuse. Christian Estrosi, je ne vais pas tourner autour du pot. J'aime bien être direct et poser des questions directes. Est-ce que vous avez pris votre décision? Est-ce que vous soutiendrez clairement Emmanuel Macron pour la présidentielle?
Si Emmanuel Macron est candidat à la présidence de la République, je le soutiendrai sans la moindre ambiguïté.
Vous voterez pour lui?
Je voterai pour lui et je ferai tout pour convaincre autour de moi, notamment dans le cadre de ceux qui incarnent une politique de défense des territoires, d'une nouvelle vision de la décentralisation, la candidature d'Emmanuel Macron. Et pour moi, c'est un principe...
Mais pourquoi ? Vous ferez campagne pour lui ?
C'est un problème d'honnêteté intellectuelle. Je suis gaulliste. Je suis issu d'une filiation de la droite et du centre, voulue par Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, c'est celui qui incarne cette véritable filiation, ne serait-ce que dans les réformes qui ont été faites. Le Code du travail, la droite l'a voulu. Emmanuel Macron l'a fait. Les régimes spéciaux, la droite l'a voulu. Emmanuel Macron l'a fait. L'ouverture à la concurrence de la SNCF pour les transports express régionaux que j'ai réclamé à corps et à cri lorsque j'étais président de cette région et qui nous permet aujourd'hui d'avoir les premiers appels d'offres qui amènent des résultats probants. La droite l'a voulu, Emmanuel Macron l'a fait. L'ISF, la droite l'a voulu, Emmanuel Macron l'a fait. Et puis lorsque je vois depuis quelque temps, notamment en matière d'immigration, cette inflexion qui est la sienne, où il dit très clairement qu'il va restreindre les visas pour les pays du Maghreb qui n'a n'acceptent pas de reprendre leurs ressortissants lorsqu'ils sont en situation irrégulière chez nous. Lorsque je vois, pour moi qui suis très attaché aux pieds noirs, aux harkis, aujourd'hui ce durcissement du ton vis-à-vis de l'Algérie pour cette forme de révisionnisme qu'il y a dans l'histoire de l'Algérie française, dans l'éducation algérienne, je commence à me sentir très à l'aise sur ces sujets qui pouvaient jusqu'à présent être des sujets de doute.
Ça veut dire que Emmanuel Macron est à vos yeux le candidat de la droite et du centre?
En tout cas, c'est celui qui l'incarne le mieux. Lorsque je vois l'état de la droite et du centre aujourd'hui, et que je vois le nombre de maires, de responsables de grandes collectivités qui sont autour de moi
et qui vont vous suivre,
et qui sont de
tous
la droite et du centre,
vont vous suivre.
Tous ne me suivront sans doute pas, mais en tout état de cause, nous partageons une même vision de la décentralisation et j'ai une relation de confiance avec Emmanuel Macron qui n'était pas forcément une relation de confiance qui impliquait mon soutien, mais au fil de nos échanges sur ces dernières années où il m'a consulté, où il y a encore quelques jours, il était à Nice pour présider le forum de la mer, nous avons échangé...
Est-ce qu'il vous a promis, je sais pas moi, d'être ministre, premier ministre ou...
Combien de fois m'avez-vous posé cette question?
Je sais pas, mais
ici,
je vous la poserai parce que...
Et vous pensez sincèrement, maintenant vous commencez à me connaître un peu,
je vous connais bien,
que je pourrais me dédire sur quelque chose auquel je suis trop attaché. J'ai exercé ces responsabilités. Elles m'ont apporté, certes, sans doute une expérience sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, je les mets au bénéfice pleinement de ma ville, de ma métropole, de mon territoire, de ma région, et aussi de l'idée que je veux porter du rôle que les territoires doivent jouer dans
notre
pays.
Je vais y venir parce que c'est
un
important.
État plus fort.
Voilà, c'est important.
Et je ne me dédierai pas. J'ai
des territoires
des
forts pour un État fort.
Vous savez, il n'y a rien de pire en politique que de mentir. Il n'y a rien de pire que de dire à ses électeurs « Faites-moi confiance, je me consacrerai à vous. » Et puis, 6 mois après, de faire le contraire. J'en vois plein sur la scène politique aujourd'hui. Eh bien, moi, je ne fais pas partie de cela. J'ai décidé de servir ma ville, de la servir au mieux. Et au-delà de ça, je n'ai pas de parti, comme vous le savez. Je placerai toujours l'intérêt général de mon pays au-dessus de tout parti politique.
Vous dites, le congrès LR a enterré l'œuvre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.
C'est clair.
Pourquoi ?
J'ai été un des membres fondateurs en 2002 aux côtés de Jacques Chirac, d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy, de l'UMP, cette grande famille qui a permis de rassembler les gaullistes, les souverainistes, les libéraux, les centristes. Quand vous voyez qu'à 23 000, dans un pays de 68 000 habitants, à 23 000 membres d'un appareil politique, on a décidé de choisir à huis clos celui qui pourrait porter et de dire aux centristes « mais vous n'avez pas le droit d'y participer ». Pour moi, la famille du centre, les héritiers de Giscard, de Raymond Barre, etc., ça compte beaucoup dans ce que nous avions réussi à rassembler avec Jacques Chirac et avec Nicolas Sarkozy. Et je veux dire à tout cela qu'ils ne sont pas orphelins, parce que nous sommes une immense majorité de responsables territoriaux, voire aussi de parlementaires, et sans doute de membres des Républicains qui exercent des responsabilités, qui sont en désaccord avec cela, et qui sont prêts à servir autrement ces électeurs.
Et à servir Emmanuel Macron ?
Et naturellement à s'engager celui qui aujourd'hui incarne au fond le mieux cet héritage.
Est-ce que LR est en train d'exploser entre d'un côté ceux qui pourraient vous suivre et ceux qui sont tentés par Zemmour ? Il y en a qui sont tentés par Zemmour.
Vous avez raison, mais moi je n'ai pas envie de tirer sur une ambulance. Les LR, c'est la filiation de l'UMP, du RPR. Ça reste ma famille de cœur. Je suis malheureux, je suis triste de voir à quoi elle en est réduite aujourd'hui. Pour autant, j'ai pas envie de la piétiner. J'ai juste envie de dire que les grandes idées que nous avons portées derrière de grandes personnalités, Pompidou, Chirac, Giscard, Raymond Barre, Nicolas Sarkozy et d'autres aujourd'hui, je veux dire à tous ces électeurs qui peuvent se sentir orphelins qu'on va continuer à porter ces idées, que naturellement le soutien que j'apporte à si les candidats à Emmanuel Macron n'est pas un soutien inconditionnel, mais c'est pour faire entendre cette voix.
S'il est candidat, est-ce qu'il doit se déclarer vite, selon vous ? Vous qui connaissez bien la vie politique.
Je ne porterai pas de jugement, c'est à lui seul d'apprécier son calendrier. Bon. Moi, j'ai le sentiment que, en tout cas, alors qu'il y a la présidence française de l'Union européenne qui prendra le 1er janvier prochain, il a à jauger entre ce temps de la fin de l'année et le temps où il lui faudra aussi de la disponibilité pour montrer, et là aussi, l'esprit de la France qui va prendre la présidence de l'Union européenne. C'est important, c'est un rendez-vous où nous devons privilégier le poids que la France va devoir prendre à la tête de l'Union européenne.
Avec de grosses échéances.
Naturellement, il est le mieux placé pour apprécier cela. Et je ne veux pas porter un jugement personnel sur ce calendrier.
Quelques mots de politique encore, et ensuite nous parlerons aux collectivités, au rôle que doivent jouer les collectivités territoriales dans la future majorité d'Emmanuel Macron et dans la politique de l'État. Mais Christian Estrosi, j'ai entendu Éric Ciotti dire « la droite ne doit pas prendre Zemmour pour cible ». Vous êtes d'accord avec lui ?
Bon, écoutez, je vais être très clair sur ce sujet.
Oui.
Moi, je suis attaché au droit du sol, je suis attaché au droit d'asile, je suis attaché au droit de prénommer son enfant comme ils veulent. Ma dernière fille s'appelle Bianca. Mes petites filles qui s'appellent Nora et Zelda, est-ce que ce sont des Françaises de second rang ? Est-ce que je suis un moins bon Français que Monsieur Zemmour ? Parce que aujourd'hui, mes enfants se prénomment de cette manière. Et puis, sincèrement, oser se cacher derrière De Gaulle pour tenter de réhabiliter Pétain. Un gaulliste qui tente de réhabiliter Pétain, ça n'existe pas. Un gaulliste qui insulte la mémoire des enfants juifs tués dans l'école Ortora à Toulouse parce qu'ils ont été enterrés en Israël, ça n'existe pas. Un gaulliste qui décide de respecter les djihadistes parce qu'ils défendraient bec et ongle leurs idées avec conviction, Jean-Jacques Bourdin, pour moi, ça n'existe pas. Tout simplement, Zemmour ne peut pas être l'appel du 18 juin, mais plutôt l'esprit de l'entrevue de Montoire.
De l'entrevue de Montoire, oui. Les historiens apprécieront, et ceux qui connaissent l'histoire aussi. Christian Estrosi, parlons de ce de ce qui vous tient à cœur, le rôle joué par les collectivités territoriales dans un État fort, vous dites. D'abord, est-ce que vous allez composer une nouvelle majorité présidentielle ? Il y a aujourd'hui, quand même, d'un côté, La République En Marche et le Modem qui sont en train de se réunir sous l'égide de François Bayrou. Il y a Édouard Philippe qui va réunir tous ses soutiens et qui va annoncer le lancement d'un mouvement et même d'un parti politique, peut-être, pour préparer peut-être 2027, le week-end prochain. Et il y a vous. Alors, est-ce que vous êtes en train, tous ensemble, de préparer une nouvelle majorité présidentielle ?
Naturellement, la majorité présidentielle de demain ne peut pas être celle d'aujourd'hui. J'ai parlé de réforme que Emmanuel Macron a mené à bien avec une majorité un peu hétéroclite. Il y a des réformes qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout et à leur terme et dont nous avons besoin. Je parle notamment de celle des retraites dont tout le monde a conscience qu'il est important qu'on avance vite sur ce sujet. Et il y a celle de la décentralisation où c'est sans doute un mandat pour rien sur la décentralisation. Donc les choses sont très claires. Qu'il y ait un parti démocrate auquel François Bayrou, pour lequel j'ai de la sympathie, avec lequel nous échangeons beaucoup, qu'il y ait En Marche de l'autre côté et qu'il décide de faire un parti démocrate, c'est une chose, mais ça ne peut pas incarner la future majorité présidentielle où le pivot, nous voyons bien qu'il y a une droitisation.
Quel sera le pivot ? Quel sera le pivot de cette future majorité ?
Et qu'aujourd'hui, j'ai fait ma rentrée politique il y a 4 jours maintenant, plus de 3000 personnes, citoyens et grands élus locaux de notre pays, Arnaud Robinet, le maire de Reims, Caroline Cailleux, le maire de Beauvais, Jean-Luc Moudinque, Édouard Philippe est intervenu en visio avec nous et bien d'autres encore. Il est clair aujourd'hui que nous avons un espace à occuper pour la droite et pour le centre. Nous sommes des élus territoriaux, depuis le maire du Havre jusqu'à moi.
Donc l'une des composantes de la future majorité d'Emmanuel Macron.
Et nous avons vocation à être cette composante non négligeable qui doit peser dans cette majorité parlementaire et en plus à veiller naturellement à ce que sur les territoires où nous avons autorité parce que nous avons la légitimité que nous ont donné nos électeurs, il n'est pas question qu'on se retrouve avec des parlementaires qui iraient à l'encontre des choix que nous faisons au plan territorial. Vous aurez remarqué que désormais au Parlement, il n'y a plus un seul maire depuis l'interdiction du cumul de mandats qui s'exprime et qui défend la voix des citoyens, des acteurs économiques, des territoires. Et pourtant, d'où vient la croissance ? Elle vient des initiatives, de la compétitivité.
Donc une majorité,
la transition écologique et la baisse de 55% des gaz à effet de serre d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050. C'est avec les territoires qu'on la réussira. La sécurité, c'est plus la responsabilité exclusivement régalienne de l'État, mais c'est un partage des responsabilités entre l'État et les territoires.
Donc ce quinquennat futur doit être le quinquennat des territoires, si je puis dire, Christian Estrosi.
Le gaulliste que je suis, je voudrais juste dire ça, Jean-Jacques Bourdin. Le gaulliste que je suis ne peut pas être pour un État plus faible à cause des territoires. Je veux un État plus fort. Et naturellement, mon soutien est un soutien de raison à Emmanuel Macron, je voudrais qu'il se transforme en soutien aussi de passion. Et que cette passion pour la France, elle se traduise pour les territoires de France en faisant confiance aux territoires de France. Et que l'État français sera plus fort avec des territoires plus forts. Nous avons vu avec la crise du Covid que s'il y a eu de bonnes décisions, et tout le monde en convient aujourd'hui, reconnaissons-le, le pass sanitaire, la reprise économique, la gestion sanitaire, ça n'a pu réussir à partir de bonnes décisions au niveau de l'État et du président de la République et de son gouvernement que parce qu'il y a eu l'agilité des collectivités pour l'accompagner.
Et concertation avec les collectivités.
Donc la politique de santé, par exemple, qui est une priorité des Français, désormais doit être partagée entre les ARS, qui représentent l'État, et les collectivités.
Co-dirigée avec les les collectivités, les ARS.
Totalement. La direction de Pôle emploi, elle doit être assurée par les régions et pas centralisée ici à Paris, où on voit bien qu'il y a un décalage, ne serait-ce que sur les formations et les qualifications professionnelles.
Vous demandez aussi le renforcement de la police, du pouvoir de police pour les maires.
Absolument. Et Emmanuel Macron, parce que, vous savez, en matière de bilan local, si aujourd'hui on regarde Nice rentrer au patrimoine de l'UNESCO avec des mesures en matière de sécurité, aussi en matière de santé, en matière d'innovation, nous sortons d'un grand forum transition qui est une des grandes capitales régionales françaises reconnue parce qu'elle est montée en puissance et parce que l'État m'a accompagné. Nous allons, avec Emmanuel Macron et son gouvernement, faire le premier hôtel de police mutualisé entre police municipale et police nationale en France. Et là où j'ai acheté un ancien hôpital qui était désaffecté au ministère de la Santé, la semaine dernière, le président de la République et le ministre de l'Intérieur m'ont confirmé qu'ils financeraient sur le plan de relance à 100% ce grand hôtel de police mutualisé. Bon, autant vous dire que quand l'État, cette relation de confiance avec les territoires
s'installe,
vous dites, on va vers une loi de décentralisation où on commence vraiment à se comprendre et que c'est pas maintenant qu'il faut ralentir un train qui est en marche et qui va dans la bonne direction.
Bien, c'est du donnant-donnant, quoi, avec Emmanuel Macron, si j'ai bien compris.
Non, c'est du respect, de l'écoute.
Vous voulez permettre au président de la République de réformer la Constitution. Vous voulez constituer une majorité solide pour réformer la Constitution. Réformer la Constitution, je ne sais pas moi, sur la durée du mandat présidentiel, sur revenir sur le cumul entre mandat parlementaire et présidence d'une grande collectivité.
Ce que nos concitoyens ont besoin de savoir et qui n'est pas suffisamment expliqué, c'est que naturellement on a besoin de la force d'un président, qui soit un chef, qui porte l'image de notre pays dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron est de toute l'offre qui nous est proposée, celui qui est le mieux placé pour faire respecter cette image de notre pays, mais en même temps qu'il a besoin d'une majorité qualifiée. On voit bien que depuis un certain temps, il n'y a plus de majorité qualifiée au Congrès, Assemblée plus Sénat. Et lorsque vous voyez, par exemple, en matière de sécurité, le président de la République, le gouvernement, une majorité parlementaire issue à la fois de la majorité gouvernementale et des Républicains, a voté une loi sur la sécurité globale où nous demandions des avancées qui nous ont été accordées à nous les maires, que ce soit dans la chasse au rodéo, la lutte contre le trafic de drogue, pouvoir raccorder des drones sur nos centres de supervision urbains pour mieux poursuivre les délinquants et mieux les identifier. Eh bien, tout ça a été voté. 15 jours après, le Conseil constitutionnel a cassé ses dispositions. Le seul moyen que nous puissions avancer, c'est de pouvoir réformer dans ce domaine la Constitution. Quand vous pensez que la CNIL, alors que j'ai les moyens de mettre de la reconnaissance faciale pour les fichiers S, pour les personnes identifiées comme extrêmement dangereuses, les pédophiles déjà condamnés à des peines lourdes, etc., je ne peux pas mettre leurs fiches génétique dans le logiciel déjà adapté pour identifier leur parcours dans la cité, parce que la CNIL s'appuie sur une loi poussiéreuse de 1978 qui dit informatique et liberté. Non, vous n'avez pas le droit de faire cela. Est-ce que même le portable, le smartphone existait en 78, alors qu'aujourd'hui, M. Xi Jinping ou M. Joe Biden, selon le modèle que j'achète, puisse me suivre en reconnaissance faciale? En France, on ne peut pas le faire. Pour protéger les Françaises et les Français, il faut dans ces domaines réformer la Constitution. Voilà pourquoi il faut donner aussi une majorité qualifiée des 2/3 au Congrès au nouveau président de la République.
Christian Estrosi, je vais, pour terminer, changer de sujet. Vous avez examiné de près le rapport rendu sur les agressions sexuelles dans l'Église catholique de France. Oui. Alors j'ai une question toute simple. Est-ce qu'il faut remettre en cause le à la fois le célibat des prêtres, c'est une première question qui est posée, et le secret de la confession.
Moi, je ne me permettrai pas de juger à la place ni du pape, ni des plus hautes autorités, et je ne ferai pas d'ingérence dans la pratique des religions. Mais le pape François, nous le voyons bien, s'est exprimé déjà de nombreuses reprises sur le sujet, est révolté, est ému, a le courage de prendre des décisions, et elles sont sans doute difficiles à prendre face à des oppositions qui existent au sein de l'Église catholique à l'égard de tout cela. Au-delà de ça, ce sont des crimes, et ces crimes doivent être poursuivis par la justice française et ailleurs par les justices des autres pays. Et elles ne sont pas que dans l'Église catholique,
mais
malheureusement.
Mais il faut remettre en cause le secret de la confession. Il faut lever le secret de la confession.
Je pense que dès lors qu'il y aurait des révélations de ce type, vous savez, lorsque j'ai importé à connaissance sur une infraction commise par mon administration, par un de mes élus, par quelque chose de grave qui se passe dans ma cité, j'ai le devoir, c'est une obligation, même si on vient me le confier en secret, de déposer un article 40, c'est-à-dire donner connaissance au procureur de la République de ce qui s'est passé. Bien, j'estime que ce qui dans la vie publique est une exigence, dans n'importe quelle organisation humaine, quelle qu'elle soit, doit être une réalité aussi.
Merci Christian Estrosi d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV 8h55.